Les disciples rentraient d'Emmaüs. En Terre Sainte, Emmaüs, alors que pour chaque lieu, en général, on a qu'un endroit qui fait mémoire, qui rappelle tel événement biblique ou tel autre. Pour Emmaüs, il semble que l'on ait trois attestations archéologiques de trois lieux différents où aurait eu lieu la rencontre d'Emmaüs. Pour les franciscains italiens, et palestiniens, c'est plutôt en Palestine du Nord, Koubeibé. Pour les Arabes israéliens, c'est plutôt vers Gaza. C'est encore dans la plaine de la Shephela, près de l'aéroport de Tel Aviv. Ça s'appelle Amwas en arabe. Et de fait, on a trouvé des attestations archéologiques d'une très ancienne église byzantine. Et pour les croisés français, parce qu'il y a toujours des Français qui occupent... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a une extraterritorialité d'un monastère français, de bénédictins français, où le drapeau français flotte, où nous pensons que Emmaüs aurait eu lieu là. Et chaque fois, ça correspond à 60 ou 160 stades, parce qu'il y a deux... Il y a aussi des variantes dans la Bible de la distance de Jérusalem. Donc ça correspond d'une manière ou d'une autre. Mais alors on se dit, mais alors que les croisés, que les Arabes, que les Israéliens, que les Italiens se mettent d'accord entre eux pour dire d'une manière univoque où a eu lieu la rencontre d'Emmaüs. Les franciscains ne seront jamais d'accord avec les bénédictins. Donc, c'est même pas la peine d'en rêver. Qu'est-ce que ça signifie, alors, par rapport à ce lieu d'Emmaüs ? Sans doute qu'Emmaüs peut avoir lieu à Marseille aussi. Et ça, les Écritures ont tendance à nous le dire. Pourquoi ? Parce que vous avez remarqué que le Christ ressuscité, le Verbe incarné, le Verbe, le Logos, le Verbe, la parole incarnée, s'est manifesté au cours d'un dialogue. D'abord, le dialogos, le Verbe qui se manifeste dans les rencontres. C'est ça. Or, on le voit, Jésus était présent, il marchait avec eux en descendant de Jérusalem, il leur parlait, il leur racontait l'événement, le sens de sa mort et de sa résurrection, et ils ne le reconnaissaient pas encore. Alors qu'il parlait avec eux, ils le prenaient pour un étranger, et ils lui disaient leur tristesse, leur désespoir, leur découragement. Et lui leur parlait, et ils ne le reconnaissaient toujours pas. C'est vrai que la matière du ressuscité, elle est transfigurée, mais c'est bien lui, parce qu'il leur dit « mes touchés, mes plaies ». Le cénacle est fermé à clé, il se manifeste au milieu d'eux, oui, ils le prennent pour un esprit, il dit « non, c'est bien moi, regardez mes plaies ». Donc c'est bien son identité profonde, c'est lui, celui qui est mort, c'est lui, qui est toujours là, c'est le même. Donc ce juif nommé Jésus, quelquefois on dit « vous savez, Jésus était juif ». Et on a l'impression de faire un gros effort. Quelquefois, quand on le dit, les enfants, pas de problème. Ou bien même, mais quand on dit que Marie était juive, alors là, les gens, ils disent, oh, ben, c'est bien dommage. Ça veut dire qu'on n'a encore pas intégré la pleine humanité de Jésus, la pleine humanité de Marie. Et c'est premier, Jésus est toujours juif. Il n'est pas chrétien. Il est juif. Chrétien, ce n'est pas une race, ce n'est pas une ethnie. Bon, mais c'est là pour dire qu'il dit « touchez mes plaies, c'est bien moi, c'est moi, je suis là au milieu de vous ». Chaque fois que le Verbe se manifeste vivant, ça part d'un dialogue. Même la création nous dit qu'au commencement était la parole, il a créé à travers le Verbe, et tout a été, il dit, et ce fut créé. Tout se fait à travers le Verbe. C'est incroyable, mais ça veut dire quand monsieur et madame Néandertal, pour remonter les siècles, se parlaient avec leur langage, le Verbe était déjà présent. Le Verbe qui a pris chair en Jésus et s'est manifesté dans sa passion, mort et résurrection, il était déjà dans les grottes Kosker et Néandertal. Déjà, il se manifestait. C'est incroyable. Ça veut dire que quand nous nous parlons dans un dialogue authentique, quand nous sommes vrais, quand nous sommes vrais, quand nous nous parlons et quand nous prenons le goût du dialogue, du dialogos, vous voyez, du dia-verbe, alors déjà, le Verbe est présent au milieu de nous. Ce Verbe qui un jour s'est manifesté en Jésus de Nazareth, dans sa mort et sa résurrection. Je pense à vous, les malades, qui avez un peu moins de facilité à vous déplacer, ou bien, comme c'est le cas pour le Père Alain, à entendre. Ça pose des questions par rapport au Verbe. Vous aussi, quand vous prenez le temps, quand nous prenons le goût du Verbe, le goût du dialogue, hein, alors, d'une manière ou d'une autre, il se rend présent à nous. Mais c'est cela que les disciples font après l'événement d'Emmaüs. Ils reviennent à Jérusalem, dans le Cénacle, ils racontent ce qui s'est passé à la communauté. Et au moment où ils étaient en train d'en parler, Jésus se manifesta au milieu d'eux. C'est incroyable. Ça veut dire que si vraiment nous engageons un dialogue profond et authentique, déjà du temps de Néandertal et de la grotte Kosker, et même avant, alors le Verbe qui est devenu Jésus dans son incarnation se manifestait déjà. Si nous écoutons sa parole, si nous écoutons les récits des disciples dans le Nouveau Testament, si nous partageons ces récits, alors il se manifestera de manière plus identifiable, plus clairement. Comme Christ, touchez, regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez mon côté, c'est bien moi, c'est bien moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire de nos dialogues authentiques alors? Ça veut dire que quand nous prenons le goût de ce dialogue authentique, il se manifeste, mais il se manifeste comme quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le fruit de nos projections, ce n'est pas le fruit de nos concertations, comme si on devait trouver un logos du milieu, un dénominateur commun. Non, c'est ce Verbe qui est à l'origine de notre création elle-même. C'est lui qui nous fait advenir, qui nous fait devenir. Sans lui, nous n'existerions pas. Depuis le début, c'est à cause d'un Verbe, de ce Verbe. De nos parents, peut-être, hein, qui se sont parlé, qui se sont aimés. C'est de ce Verbe que s'est créé, que nous avons été créés et que nous devenons. Donc, c'est normal qu'il se manifeste au milieu de nous comme ressuscité. C'est simplement que nous ne prenons pas conscience suffisamment que lui, il existe et que nous commençons à advenir, à exister. Que lui, il existe vraiment et que nous, comme des ombres dans des songes, dans des ombres et lumières, nous commençons à exister. Mais nous existons de plus en plus grâce à lui dont nous partageons la parole. C'est incroyable cela. Et cela, vous qui avez moins de mobilité, vous avez peut-être plus de possibilités de vous consacrer à ce partage de la parole, à ce dialogue authentique, un dialogue avec tous authentique. Que c'est beau. Vous vous rendez compte, aujourd'hui ou dans notre monde, on est plutôt tenté de tout militariser, d'avoir des propos rapidement belliqueux. Le Christ nous invite au contraire, hein, à habiter le dialogue, à avoir le goût du partage de la parole, le goût du dialogue authentique, de laisser venir quelque chose de nouveau par ce qui est entre nous que c'est beau. Je me rappelle il y a 25 ans, quand je me trouvais le matin à Beit Jala en Palestine, l'après-midi à Jérusalem en Israël, côté israélien, il arrivait en ce temps-là que nous organisions des rencontres entre des Juifs devenus chrétiens et des Palestiniens chrétiens, avec des croisés, j'en faisais partie, des anciens croisés. Et figurez-vous que c'est vrai, quand nous nous rencontrions dans la Keïla de Jérusalem, la Keïla, ça veut dire l'église en hébreu, la communauté, quand nous nous rencontrions, puisque nous avions la passion du dialogue, il se passait quelque chose. Il y a quelque chose qui naissait. Il y avait quelque chose de créatif qui s'engendrait. Il y avait le goût de cela. Et tout le monde se laissait déplacer par le goût du dialogue et par la joie de laisser le Christ se manifester et créer du nouveau. Si seulement, aujourd'hui, en ce temps où tout le monde a envie de faire la guerre, hein, si seulement nous trouvions le temps, nous donnions du temps pour goûter à cet entre-deux du dialogue qui engendre de la nouveauté, qui engendre de la vie, qui nous fait advenir. Si seulement les peuples pouvaient découvrir qu'ils trouvent leur identité à partir du dialogue et non à partir des armes, mais si nous pouvions le trouver aussi dans les rues, sur les autoroutes, au carrefour où quelquefois les automobilistes s'insultent pour des riens, si nous pouvions au contraire trouver le goût d'habiter l'entre-deux du dialogue, alors le Christ se manifesterait à nouveau. Et aujourd'hui, il se manifeste parmi nous, déjà par l'écoute de la parole commune, comme c'est le cas aussi quelquefois le matin à 8h30 ici, par l'échange de la parole. Mais il va plus loin. Et il montre par les sacrements, le baptême, l'eau qui vous a réveillé, par l'onction, cette huile par laquelle il vous touche, par laquelle il vous offre une thérapie. L'huile est une thérapie dans les premiers siècles de l'Église. Il touche votre vie par l'Eucharistie, où non seulement il nous touche, mais il vient nous habiter de l'intérieur. Eh bien, il manifeste qu'il est vivant, qu'il est autre, et que c'est cet autre-là, vivant et ressuscité, qui nous rend vivants aujourd'hui et qui nous donne de devenir et d'advenir et de nous trouver une nouvelle jeunesse qui sera éternelle.